I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission qui vous parle de jeux vidéo et de l'industrie du gaming. On vous parle de consoles, de PC, de machines portables, smartphones par exemple. Et la chose dont on ne vous parle pas, c'est de la politique. Promis. Enfin, j'espère, je pense. Bref, lançons-nous. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, je suis rejoint par J.K. Loret et Oscar Lemaire. Comment allez-vous, messieurs ?
Eh bien, bonjour, oui, ça va, super, ça fait longtemps que je suis pas venu, donc c'est cool.
J.K., écoute...
J'ai un peu grillé la politesse à Oscar, pardon.
C'est pas grave, vas-y.
tu hésites, J.K., je me demande si tu vas vraiment bien, du coup. Est-ce qu'il serait passé des choses cette semaine qui t'ont ébranlé? Bien sûr, je parle pas de politique, je parle d'un éventuel
ZQSD, tu vois. Plus là-dessus, c'est plus du soulagement qu'autre chose, mais bref, on parle pas de politique.
D'accord,
non, ça
bon.
Va super, ça va, tout va bien, tout va bien.
Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, J.K., donc, journaliste de son état, podcasteur également. Et donc, comme je le disais, Oscar se joint à nous aussi, puisque en cette période magique de bilans financiers et de chiffres nombreux, la personne en France que l'on veut avoir, que toutes les rédactions s'arrachent pour parler de jeux vidéo, c'est bien sûr Oscar Lemaire, le spécialiste international en la matière. Comment vas-tu, Oscar ?
Ça va très bien. Écoute, à part que je suis débordé en ce moment et que je n'arrive pas à profiter comme il se doit de toute cette période, comme tu dis, de chiffres, de bilan financier qui est un peu mon Noël à moi normalement, mais qui n'est pas terminé. Il y en a encore d'autres à venir. Je crois qu'il y a Electronic Arts ce soir, par exemple. Donc ça continue et je vais essayer au moins de profiter davantage sur la
fin. Un petit peu, oui, c'est ça. Vous voyez, il y a des gens particuliers dans le jeu vidéo. Hein. La période des bilans financiers, c'est le Noël d'Oscar Lemaire. On a des personnalités particulières, on va dire. Mais c'est très bien. On est content de t'avoir, Oscar. Et justement, tu vas pouvoir quand même nous éclairer sur les quelques chiffres qu'on a eus et les mettre dans un contexte intéressant. Et donc, ce dont on va parler aujourd'hui, bah, bien sûr, il y a les chiffres. Mais alors, nous, on va essayer de vous parler des chiffres intéressants uniquement. On va pas vous assommer, comme je le dis souvent, avec des tonnes de chiffres qui ne sont pas forcément les plus captivants. On va en choisir quelques-uns et puis essayer de les expliquer et, comme je disais, de les mettre dans leur contexte. On va vous parler de Nintendo, de Sony, d'Activision Blizzard et puis peut-être d'une ou deux autres choses en plus. Et puis, on aura ensuite... d'autres news et d'autres annonces diverses. On va notamment vous parler de PlayerUnknown's Battleground succinctement parce que c'est pas bon. On vous en parlera parce qu'il y a quand même des choses à dire. Darksiders 3, un petit peu de Call of Duty World War 2 qui a son trailer qui a été publié. Halo 6 même, etc., etc. Mais lançons-nous immédiatement avec qui d'autre que Nintendo, qui est certainement la société, le constructeur qui a le plus de choses intéressantes à dire en ce moment avec le lancement de la Switch qui a eu lieu il y a maintenant ça fait 2 mois à peu près. C'était le combien mars? C'était le 3, hein, le 3 mars.
Le 3, ouais.
Début mars. Donc ça fait 2 mois.
Ça fait 2 mois quasiment et pile.
Et on a les premiers chiffres de vente de la Nintendo, c'est-à-dire les chiffres de vente de mars de la Switch qui se montent à 2,74 millions de consoles, alors que rappelons-le, ils avaient prévu 2 millions sur le mois de mars uniquement, et il semblerait à côté de ça que la console continue à bien se vendre et que Nintendo, on a eu des des histoires selon lesquelles ils affrétaient des avions, ils faisaient du transport aérien plutôt que maritime pour s'assurer que les consoles arrivent aussi vite que possible dans les différents pays où elle est très demandée. Ça avait été le cas pour Sony, qui avait fait ça pour des PlayStation 4, si je ne m'abuse, à son lancement. Mais enfin, généralement, c'est assez rare. C'est plutôt du transport, du fret maritime qu'on fait pour les consoles, parce que bien sûr, ça coûte beaucoup moins cher, mais c'est plus lent. Donc, 2,74 millions de consoles. Je pense qu'il est assez clair que c'est un très bon chiffre. Je me retourne du coup vers Oscar. On en parlait avant l'émission. Si on place ça dans un contexte historique, on est vraiment dans un super bon démarrage par rapport aux consoles habituellement, non ?
Bah, ça dépend en fait, parce que en fait c'est assez difficile à comparer dans la mesure où déjà les consoles ont tendance à sortir en fin d'année en général. Enfin, ça fait quelques générations que c'est devenu un peu l'habitude. Donc là c'est pas le cas. Donc forcément les chiffres sont quand même c'est bien inférieur par exemple à la PS4. Mais évidemment, il y a le fait que comme Nintendo a lancé la console en mars, ils n'ont pas non plus prévu un stock qui aurait été adapté pour une fin d'année, quoi. Ce qui fait que on est dans une situation de rupture de stock. Mais la grande question, elle est de savoir jusqu'à quel point pourrait se vendre la console s'il y avait du stock. Donc c'est encore assez flou, même si, enfin voilà, effectivement le succès pour une sortie en mars, le succès est indéniable. La tendance pour Nintendo est très encourageante vu que ça, comme tu disais, ça fait à peu près 2 mois qu'elle est sortie et on est toujours dans un contexte de rupture de stock. Mais ça garantit pas. Disons que ça a tendance à indiquer que on s'éloigne assez clairement du cas de la Wii U et de son échec, et que la Switch ne sera pas un échec. Maintenant, la question est de savoir à quel point ça va être un succès. Il est encore trop tôt pour dire si ça va être un succès du niveau de la Wii ou si ça va juste se situer dans les alentours de la Nintendo 64, par exemple. Ouais.
Qui au final n'était pas un immense succès non plus, qui était correct, mais enfin, c'est le moment où Nintendo a commencé à décliner un petit peu.
Exactement.
Mais c'est vrai que dans ce contexte de mars, alors les chiffres sont quand même, tu compares à la PS4 qui à mon sens est un petit peu, c'est l'une, sans doute la console qui se vend le mieux, comparable à la PS2, limite à la Wii, donc bon, c'est sûr que c'est pas la PS4, mais elle fait quand même de bons chiffres à mon sens. Mais là où je rejoins par contre cette prudence, c'est que les fans de Nintendo, et puis on en parlait régulièrement, les fans de Nintendo sont très avides. Et donc, on avait des chiffres qui étaient quand même, sur le tout début, pas si ridicules pour la Wii U non plus. Donc il y avait énormément de gens qui se... En fait, chez Nintendo, c'est un petit peu comme chez toutes ces sociétés où on a des fans hyper actifs, par exemple chez Blizzard, chez Valve, ce genre de boîtes. Les gens qui veulent acheter vont tous se précipiter tout de suite, quel que soit le titre. Mais ensuite, il faut voir s'il y a une adoption du plus grand public. Alors, les chiffres, enfin les impressions qu'on a maintenant semblent indiquer que bon, ça se passe pas trop mal quand même pour la Switch. Mais oui, ça veut pas, c'est pas un succès garanti, quoi. Ça, c'est certain. Ouais.
C'est-à-dire que si tu veux une comparaison claire chiffrée avec la Wii U, elle avait fait un petit peu plus de 3 millions sur une période un poil plus longue, puisqu'elle était sortie en novembre 2012 et jusqu'à fin décembre, elle avait fait un peu plus de 3 millions. Mais forcément, c'était Noël, donc
bien sûr. Ouais.
C'était Noël, puis il n'y avait pas un phénomène de rupture de stock comme il y a actuellement. Donc c'est surtout pour ça que c'est plus encourageant. Et en fait, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est l'exemple du Japon, où pour l'instant la Switch est une console qui s'est moins vendue que la Wii U ou que la 3DS, mais qui affiche une tendance, c'est-à-dire que si on la compare à la 3DS, la 3DS avait fait un bien meilleur démarrage sur les toutes premières semaines. Alors je compare avec la 3DS parce que la 3D est sortie à peu près à la même période, hein, fin février, début mars. La 3DS avait fait un bien meilleur démarrage parce qu'il y avait beaucoup plus de stock notamment, mais elle avait très vite décliné. Elle était passée très rapidement à un rythme à 20 000 ventes, voire moins de par semaine au Japon. Et là, la Switch se maintient à la même durée, dans les alentours des 50 000. Elle a fait même plus de 70 000 la semaine dernière. Donc ça montre clairement que la demande est là, et la question est de savoir jusqu'où cette demande va aller. Quoi.
Bon, les nouvelles estimations de Nintendo, je crois, se placent à autour de 10 millions sur l'année fiscale 2017, si je ne m'abuse, ce qui ferait un parc installé de plus de 12 millions en un an. S'ils y arrivent, je pense qu'on pourra dire clairement que la Switch est un succès, mais bon, comme tu le dis, on verra si ça se produit. Une autre news, c'est la NES Classic qui a été annulée, qui a interrompu sa production alors qu'elle se vendait très bien. Et on a eu beaucoup de commentaires selon lesquels, voilà, Nintendo prendrait une décision un petit peu difficile à comprendre parce que ils arrêtent de vendre une console qui se vend très bien, et ils sont un petit peu en train de dire non, on veut pas d'argent, merci, et que c'est une décision de logistique qui est difficile à justifier. Ce sur quoi Régis Fils-Aimé a fait une interview et il a dit, écoutez, le problème, c'est un problème de capacité. Nintendo n'a pas la capacité de s'occuper de 12 000 trucs en même temps, donc on a dû faire des choix. Et là, je me retourne vers JK, dont je suis curieux de savoir si toi t'es plutôt du camp mais c'est n'importe quoi, ils auraient pu prévoir, franchement c'est pas si difficile, ils vendent des consoles, bah vous avez qu'à en faire plus, et si vous avez pas assez de gens, vous avez qu'à en engager, ou est-ce que tu comprends un petit peu la remarque de Régis?
Je suis pas totalement convaincu, parce que j'ai l'impression quand même que quoi qu'on en dise, la NES Mini, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus compliqué à produire. C'est typiquement le hardware d'un mini PC, d'un Raspberry Pi avec un boîtier en plastique. Donc pour moi, c'est extrêmement facile à produire, et ça coûte pas grand chose, et y a une demande tellement énorme que je comprends pas pour quelle raison ils aient pas décidé de débloquer soit un budget, soit je sais pas, du personnel pour se débrouiller pour produire, continuer à produire cette console. Donc cette justification me paraît étrange. Ils ont peut-être des problèmes d'approvisionnement, ou peut-être des problèmes de contrat avec leur fabricant, leur distributeur, parce que j'imagine que, enfin je sais pas, ça doit être fabriqué en Chine, j'imagine. Il y a peut-être des choses comme ça qu'on ne sait pas, qui ont fait qu'ils ont stoppé la production. Mais moi j'ai quand même du mal à croire à cette explication, parce que la console fait un carton monstrueux, elle est en rupture de stock absolument partout. Moi j'ai la chance d'en avoir une. Moi je me rends compte là, la dernière fois, la semaine dernière, pour rigoler, je suis allé voir les prix de la console sur le net. T'as des gens qui la vendent 400-500 €. Enfin c'est du délire quoi. Donc j'ai du mal à comprendre. Après il y a l'hypothèse aussi plus ou moins crédible que ils préparent une Super NES Mini.
C'est même avéré. Hein,
c'est quasiment avéré. Est-ce que ça a une influence, est-ce que ça a une influence sur la production de la NES Mini? J'ai du mal à y croire. Donc c'est étrange, je trouve sur leur réaction étrange, et c'est même un petit peu dommage quoi.
C'est marrant, moi j'ai pas vraiment la même analyse. Je trouve que il y a dans ce que dit Régis Fils-Aimé une vérité d'entreprise que beaucoup de gens ont du mal à percevoir, et je crois que mon passage chez Blizzard m'a ouvert les yeux sur l'importance vraiment de la culture d'entreprise. Et chez Nintendo, c'est pas une boîte monstrueuse, c'est pas une...
C'est une petite boîte, hein, Nintendo,
ouais,
c'est vrai.
Voilà, c'est une petite boîte, et tu peux pas être à la fois au four et au moulin, tu peux pas tout faire. Il faut faire des choix, et la culture de ton entreprise est hyper importante si tu veux t'assurer que la qualité de tes produits reste constante. Tu peux pas grossir l'entreprise en disant « Ah ouais, bon, la NES Mini, ça se vend. Ok, on va embaucher 50 ou 100 personnes pour bosser dessus. Et puis voilà, vous rentrez, vous commencez à faire les trucs. »
Non, mais
ça marche pas comme ça, tu vois.
Non, mais je suis d'accord. Mais là, on parle pas d'une grosse console de salon. On parle d'un petit accessoire qui, encore une fois, je pense pas grand chose à fabriquer, qui est pas extrêmement complexe à fabriquer, tu vois. Ils auraient limite pu sous-traiter. Après, c'est pas dans leur culture, mais voilà.
Bah non, mais c'est exactement ça. Tu dis, ils auraient pu sous-traiter, mais après, quand tu sous-traites, le travail est pas aussi bien fait. Tu vas avoir des gens qui sont pas aussi motivés. Enfin, même sans sous-traiter, quand tu continues à vendre la NES Mini, il faut que ta chaîne d'approvisionnement fonctionne. Les gens qui vont s'occuper de ça vont pas s'occuper ensuite de la Switch, qui, oui, la NES Mini ça marche, mais enfin oui, ils vont en vendre encore quelques mois, un an, et puis après, voilà, ça, faut pas exagérer non plus. La NES Mini, c'est pas leur projet, c'est pas leur avenir, tu vois. Alors que la Switch, je pense qu'ils ont vu comment ça fonctionnait, ils se sont dit, bon, alors il faut qu'on fasse un choix, soit on s'occupe, soit on est à fond sur la Switch, soit on divise notre attention, et vraiment, même quand c'est que la NES Mini, bon, bah, t'as des gens, des relations presse qui vont devoir en parler un petit peu quand même, le marketing, il va devoir s'occuper, tu vas devoir diviser ton budget un minimum, tu vas demander de l'espace dans les étalages. Dans les grandes surfaces, dans les magasins, bah il faut la vendre la NES. Donc les gens ils vont te dire, tu vois, les responsables de magasins ils vont dire, bah oui, mais enfin vous voulez la NES ou la Switch sur vos trucs, ou alors tu vois, faut. Je pense que c'est aussi pour ça que cette décision a été prise. C'est vraiment la décision. Est-ce que vous voulez pousser à moitié, enfin, ou 20% la NES et 80% la Switch, ou même pas 80%, parce qu'il y a la Super NES Mini qui arrive aussi, elle est déjà dans les cartons, j'imagine, tu vois, ça a déjà commencé. Donc pour moi, je trouve que ça s'explique comme ça, et encore une fois, pour la question de la culture d'entreprise qui est vitale, quoi. C'est à ça que tu vois si une boîte a réussi, si une boîte est corrompue, entre guillemets, quand elle grossit ou pas. Et c'est hyper important de préserver, et hyper difficile de préserver cette culture d'entreprise. Mais, je sais pas, Oscar, ça te...
Bah, en fait, moi, c'est pas que je suis pas d'accord avec vous, mais je pense surtout à autre chose. Je pense surtout qu'on a tendance à surestimer la popularité de la NES Mini.
Ouais, je suis d'accord.
En fait, c'est-à-dire que de toute évidence, la console a été un énorme succès à la fin d'année, qui a surpris Nintendo. Et je pense, déjà, il y avait beaucoup de commentaires de gens qui disaient, mais c'était évident que ça allait marcher. Ils étaient cons de ne pas prévoir plus de stock. Je trouve pas que c'était si évident que ça que ça allait marcher, en tout cas à ce point-là. Mais clairement, ça a cartonné. Maintenant, je pense que la situation actuelle est assez différente. C'est-à-dire que là, il y a toujours une demande importante. Il y a effectivement des prix énormes sur eBay, mais qui c'est à mon avis uniquement à cause de la pénurie. C'est-à-dire que je pense que c'est un produit qui a eu un succès surprise, mais qui a un type de succès qui se limite à la période de Noël. C'est-à-dire que là où ils ont vraiment réussi leur coup avec la NES Mini, c'est qu'ils ont réussi à toucher le grand public. Ils ont réussi à toucher une partie du public qui n'est pas spécialement passionné par les jeux vidéo, mais qui a joué à la NES quand ils étaient gamins. Et ils se sont dit, tiens, voilà, ça fait un cadeau sympa pour Noël. Mais je pense qu'en dehors des périodes de fête, ils ont continué à en vendre beaucoup parce qu'il y avait une grande demande et qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient insatisfaits, qui n'avaient pas pu l'avoir à Noël. Donc, comme ils l'ont expliqué, ils prévoyaient de le vendre que dans la période de Noël. Comme il y a une grosse demande, ils ont étendu la période pour de production pour pouvoir satisfaire ce public-là qui n'a pas pu être satisfait à Noël. Mais je pense que maintenant, ça retombe.
C'est quoi les chiffres de vente? On les a, les chiffres de vente? C'est autour de quoi? 1 million, quelque chose comme ça?
C'est 2 millions et quelques, entre 2 et 3 millions. Enfin, voilà,
c'est pas mal qu'ils vont en vendre ensuite 10 millions de plus sur les 3 ans à venir, tu vois.
Exactement. Enfin, je veux dire, je trouve pas d'exemple en tête, mais il y a plein de jeux qui se sont mieux vendus que ça et qu'on considère pas comme des gros succès, par exemple. Donc c'est pas non plus un phénomène énorme. Je pense que ça a été un vrai succès qui les a surpris, mais je pense que maintenant la demande doit être malgré tout, la demande reste supérieure à l'offre. Donc forcément, ça donne l'impression qu'il y a toujours une grosse demande. Mais à mon avis, elle est beaucoup plus basse qu'à Noël. Et je pense que leur stratégie, c'est surtout de se dire que c'est un produit qui est fait pour la période de fin d'année. Et du coup, c'est dans leur intérêt de ne pas en proposer dans le reste de l'année pour que ça redevienne un produit nouveau en fin d'année. Alors maintenant, il y a le cas de la Super NES Mini qui, comme vous dites, est quasiment avéré, qui a été annoncé par, selon les informations d'Eurogamer, qui est plutôt fiable. Visiblement, ce qu'ils vont faire, c'est sortir une Super NES Mini à la fin de l'année, qui va être le truc qui remplace la NES Mini. Moi, à la base, je pensais pas qu'ils sortiraient la Super NES Mini aussitôt, et je pensais qu'ils arrêtaient la production de la NES Mini maintenant, enfin officiellement, en tout cas, ils arrêtaient d'en vendre pour en reproposer de nouveau en fin d'année. Maintenant, comme le hardware de la NES Mini est visiblement suffisamment puissant pour faire tourner des jeux Super Nintendo, je pense que ce sera exactement le même hardware, mais simplement avec des ROM différents. Et un plastique différent, quoi. Donc, à mon avis, il continue la production en fait pour préparer le stock de Super NES Mini pour la fin d'année.
Ouais.
Quitte à peut-être proposer à la fin de l'année les deux consoles à nouveau de retour sur le marché pour faire un double combo, mais pendant une période très limitée, du coup, parce que je pense que pour la SNES Mini, ça va être la même chose. C'est-à-dire que là, étant donné la pénurie très rapide, les gens qui la veulent vont se précipiter sur la SNES Mini, d'autant plus que la SNES, a priori, a une cote de popularité encore plus grande que la NES. En tout cas, enfin, je sais autour certain, de moi, tous les gens attendent la SNES Mini. Quoi. Oui.
Bah, c'est surtout que. Je vais rebondir là-dessus. Bien en sûr. Fait, la NES Mini, elle a surtout, il y a un côté. C'est une machine pour les nostalgiques. Alors que la Super NES Mini, il y a également ce côté-là, mais en plus, il y a un côté, c'est-à-dire que les jeux de la NES. Quoi. Bah, les jeux de la NES sont quand même très mal vieillis. C'est difficile de proposer la NES Mini à un gamin d'aujourd'hui, quoi. Alors que la Super NES Mini, il y a des jeux qui ont très bien
Mario
vieilli.
Mario ou Zelda, par exemple, ça reste des jeux qui restent hyper jouables et même très bons, quoi. Alors que c'est vrai que sur la NES.
Et du coup, ça fait un produit parfait pour les gamins, pour les parents qui veulent acheter des jeux vidéo à leurs gamins sans acheter une console qui coûte super cher et où il y a besoin d'acheter des jeux en supplément. Là, un truc à 60-70 € avec 30 jeux inclus.
Pour leur montrer ce que c'était, pour les éduquer un peu entre guillemets au niveau en termes de rétro gaming sans leur imposer des jeux ultra, enfin, assez datés qui y a sur NES.
Des trucs en pixels, effectivement. Je dirais que je crois qu'il y a effectivement cette notion de bulle. On est tous genre des super fans de jeux et on est assez nostalgique de cette époque et donc on a l'impression que le monde s'enflamme pour la NES Mini. Alors que moi je rejoins un petit peu Oscar. Je crois que oui, elle s'est bien vendue pour un produit comme ça. Mais bon, encore une fois, c'est pas l'avenir de Nintendo, donc ils se concentrent sur d'autres choses, comme par exemple la famille 3DS. Avec l'annonce de la New Nintendo 2DS XL qui arrive en juillet, qui est une version de la New Nintendo 3DS XL, mais sans la 3D. Alors, ça peut faire un peu rire, mais je pense qu'on est tous d'accord maintenant pour dire que la 3D, c'est plus qu'accessoire sur cette machine. Et une New Nintendo XL à 150 €, 160, 170... Peut-être, enfin, je sais plus combien elle sera vendue en France, mais c'est un peu le râle de fin de vie de la 3DS. Moi, je m'attendais pas à ce qu'ils sortent une nouvelle console. J'avoue que j'ai été un petit peu surpris, mais c'est sans doute un bon choix. Le catalogue de la famille 3DS est incroyablement puissant. Il y a bien sûr des jeux qui vont arriver encore, mais enfin on est sur la fin. C'est un petit peu l'équivalent de la Wii Mini ou de la ces consoles qui finissent la vie de la famille de Nintendo. Ils en vendent encore, ils essorent le truc autant qu'ils peuvent. Mais moi je pense pas que ça veut dire que la 3DS va continuer ou même qu'on aura un successeur ensuite dans les quelques années à venir à la 3DS quoi. Mais JK, je sais que tu l'as eu entre les mains. C'est quoi ton analyse du produit?
Non, mais c'est vrai qu'on a été surpris et moi le premier. Et c'est vrai que quand j'ai eu la console entre les mains, je me suis dit ah ouais, quand même ils ont fait les choses bien. Il y a assez peu de choses qui changent par rapport à la New 3DS, mais pour moi l'énorme différence c'est que ils ont optimisé largement le cadre autour des écrans, ce qui fait qu'on a des écrans de la même taille que la New 3DS XL, mais dans un châssis, donc une console qui est vraiment plus petite. Moi la New 3DS XL je la trouvais trop grosse. Moi je préfère à la New 3DS classique, et là vraiment ils ont une console qui est beaucoup plus petite avec malgré tout des écrans plus grands. Elle est hyper légère, donc ils ont vraiment optimisé le châssis. Elle est hyper légère, la taille et le poids sont vraiment très optimisés. Après ça fait un peu plastoc, c'est à dire que quand tu l'as en main t'as quand même l'impression que ça sonne un peu creux. La charnière elle est pas très solide, et ce qui est un peu dommage c'est que la 2DS de l'époque elle était réputée comme étant assez solide. Voilà, c'était un truc qu'on pouvait donner à un enfant en bas âge sans trop craindre ce qu'il la casse au bout de deux jours. Là, sur la new 2DS XL, c'est pas tout à fait le même schéma, j'ai l'impression. Donc,
c'est ça, faut voir. C'est un peu, j'ai l'impression, la machine ultime pour la famille. La famille cette console,
quoi. Ouais, complètement.
Voilà, elle est pas trop chère, elle est...
Ah ouais, 150 euros, enfin...
Voilà, c'est ça. Et à tel point que moi, j'ai carrément hésité. J'ai une 3DS et je me suis carrément dit, pendant 10 secondes, hein, même pas, je me suis dit, ah, peut-être que il faudrait que je m'en prenne une. Mais enfin, ça, pour moi, vraiment, c'est... Là encore,
t'as pas la new, c'est la new ou la normale que t'as ?
Non, j'ai la normale, ouais. La 3DS normale. Mais bon, enfin, soyons clairs, c'est une machine qui est très âgée maintenant. Il y a moi, mais disons que la question qu'on se pose, c'est si quelqu'un veut acheter une console Nintendo et qu'il hésite ou qu'elle hésite entre la Switch et la famille 3DS. D'une part, s'il va vers la famille 3DS, c'est celle-ci qu'il faudra acheter, je pense, sans aucune hésitation.
Sauf s'il est fan de la 3D, mais
ouais, c'est rare, quoi. Voilà. Et mais voilà, la force de la famille 3DS, c'est son catalogue existant et le prix. Bien sûr, la force de la Switch, elle est différente. Mais bon,
ah, ça peut même être un complément. Hein, disons que la Switch pour jouer dans le salon et s'amuser peut-être pour le papa, la maman, on va dire, et pourquoi pas une 2DS pour jouer avec les mômes, pour jouer avec les enfants, pour les enfants. Enfin, pour moi, c'est deux compléments plutôt intéressants, quoi.
Pas de commentaire, Oscar. On passe à la suite.
Ouais, non, je peux pas grand-chose.
Rien à dire sur la 2DS, c'est du matériel, c'est pas des chiffres, on s'en fout.
Juste si, il y a juste
un
truc.
Ah, quand même, j'ai réussi quand même à lui sortir un truc.
Non, mais en fait, ce qui me fait mal, c'est-à-dire que je pense que le gros souci, enfin, l'un des gros soucis de la 3DS, mais peut-être le plus gros souci, c'est cette profusion de machines, de noms différents c'est un bordel, on a du mal je pense que c'est compliqué pour le grand public de s'y retrouver. Et du coup, ça rend le truc encore plus compliqué, mais je pense que on est arrivé à un stade où, enfin, Nintendo n'en a plus rien à foutre, et a raison, parce que la console commence à être très vieille, tout ce qu'ils essayent, c'est de grappiller des ventes supplémentaires pour arrondir les scores, le score total de la 3DS.
Ouais,
mais ça continue à gagner un peu d'argent, ce qui est très, très malin de le faire avec le principe de la 2DS, puisque, ça leur coûte aussi beaucoup moins cher à produire. Enfin, la console est moins chère, mais comme il n'y a pas d'écran en 3D, ça m'étonnerait pas qu'elle ait une marge plus importante que les new 3DS, quoi.
Ouais, c'est possible, hein. Mais c'est vrai que ça, ils sont spécialistes, enfin, surtout sur les consoles portables, ils ont toujours décliné leurs consoles portables à foison, quoi. Oui. Je sais pas combien de versions de la Game Boy il y a eu, pareil pour la DS classique, enfin.
Ouais, mais la Game Boy, vous vous souvenez de la Game Boy Micro?
Oui, micro, oui.
Et... Mais, micro, ouais. la 3DS, c'est quand même le record, quoi.
Ouais,
entre le modèle normal, le modèle
XL. Il y a 6 versions, en tout cas.
Ouais, voilà. C'est ça, c'est quoi, bordel, quoi.
Fire Emblem Heroes a rapporté plus d'argent que Super Mario Run, ce qui, moi, me perce un petit peu le cœur, parce que ça veut dire que le modèle free-to-play a fait plus d'argent que le modèle freemium, même avec un jeu Mario. Bien sûr, on parle de téléphone mobile, mais il n'empêche. Et du coup, si même Mario n'a pas réussi à faire une somme satisfaisante en modèle freemium, c'est-à-dire on paye une fois et on débloque l'ensemble du jeu, bah je sais pas si qui que ce soit, enfin si même d'une part Nintendo n'a pas réussi, donc personne d'autre, je pense, ne va vraiment tenter. Et du coup, je me demande si Nintendo va retenter. Alors, ils ont dit oui, on préfère les modèles free to start où on paye une fois et c'est terminé, au modem free to play où on peut payer jusqu'à la fin des temps. Mais il faut être honnête, si le fait de développer un jeu en freemium laisse la moitié de l'argent sur la table, je sais pas qui va résister longtemps à ce type d'appel de sirène. On pourrait se dire qu'à la limite, ça peut servir deux populations différentes et qui ne se cannibalisent pas, donc on peut taper dans les poches des deux types de joueurs. Mais je sais pas, moi j'y crois moyen, et du coup ça m'inquiète pour l'idée d'avoir des jeux vraiment payants tout court sur smartphone. Heureusement, sur les consoles classiques, c'est encore le cas.
Oui, ça sera le cas, j'imagine. Ouais.
Mais après, Oscar...
Je pense que quoi qu'on en dise... Vas-y, Patrick, pardon.
Non, non, mais je voulais demander à Oscar si il avait si cette vision pessimiste était réaliste, enfin pessimiste parce que moi j'aime pas le free to play, mais était réaliste ou sinon ça peut quand même continuer à exister, peut-être surtout chez Nintendo.
Bah non, enfin je partage ton point de vue. De toute façon, c'est un truc qu'on savait déjà à peu près avant, c'est-à-dire que ça fait longtemps que tu regardes les classements des 100 jeux qui rapportent le plus d'argent sur l'App Store et compagnie. Le il y en a qu'un seul qui est pas un free to play et c'est Minecraft qui est dans la deuxième moitié du tableau, quoi.
Mais qui est de toute façon une anomalie de l'industrie.
C'était jusque là c'était la seule anomalie et effectivement le moi je me souviens très bien que quand Nintendo a annoncé le Mario Run, la bourse était super enthousiaste, l'action a explosé. Quand ils ont clarifié le fait que ça allait pas être un free to play mais que ça allait être un jeu payant, les mecs ont tiré la gueule, quoi, parce que effectivement on est dans un système où de base c'est déjà acquis que c'était pas très encourageant. Effectivement, il y avait un côté peut-être que Nintendo allait réussir grâce à Mario, et finalement non, ils ont pas réussi et effectivement c'est juste une confirmation supplémentaire que sur mobile il y a que le free to play qui marche, quoi.
Ouais. Enfin, alors c'est pas qu'ils ont quand même vendu hein, des jeux, ils ont fait de l'argent, mais oui comparativement. Ouais.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ils ont fait de l'argent, mais en même temps, déjà, ils n'ont pas fait énormément d'argent et disons que même si c'est un jeu qui est de toute évidence très rentable, qu'ils ont gagné de l'argent avec, leur objectif c'était pas ça. Leur objectif c'était de gagner beaucoup d'argent, c'était de créer un nouveau phénomène du mobile, et c'était aussi de créer un phénomène qui allait encourager les ventes de Mario sur console, comme Pokémon Go l'a fait. Et ça aussi c'est un peu raté dans la mesure où le jeu a eu beaucoup de critiques négatives, de gens qui disaient quoi, mais faut payer pour jouer à un jeu sur mobile, c'est scandaleux, etc. Donc c'est quand même globalement un échec, et d'ailleurs ils s'en cachent pas pour le fait de le considérer comme un échec, tout en disant que effectivement, enfin que je sais plus quelle était la phrase exactement, c'était pas une phrase officielle, c'était mais je sais plus, c'était le Wall Street Journal ou peut-être le Nikkei qui avait rapporté ça d'un exécutif de Nintendo qui leur expliquait que on préfère ce modèle-là que le modèle premium. Ils préfèrent, c'est pour eux, c'est, enfin, et c'est logique parce que ça correspond plus à l'ADN de Nintendo de fonctionner comme ça plutôt que du free to play. Mais le problème, c'est que c'est pas ce que le marché attend. Et en même temps, de toute façon, Iwata avait très vite annoncé que y aurait essentiellement des free to play parce qu'ils étaient conscients qu'il y avait que ça qui marchait, quoi. Et j'en profite juste pour te souligner que en fait free to start et free to play c'est exactement la même chose. Je sais pas si on n'avait pas déjà eu cette conversation une fois sur Twitter, il me semble.
Mais non. Alors attends, excuse-moi. D'abord, je me corrige moi-même. C'est Kimishima bien sûr et pas Kawashima qui avait dit ça, le président de Nintendo et pas le docteur du jeu de voilà. Mais free to play et free to start. Mais non, Nintendo, les trucs qui en fait free to start, c'est avec des mots. Donc tu downloads le truc, tu peux jouer 5 minutes et puis tu payes et tu as le jeu complet. C'est le modèle Nintendo de Mario Run.
Non, pas du tout. Au contraire, c'est free to start, c'est juste le terme employé par Nintendo pour définir le free to play. Mais si tu regardes bien,
Mario Run est un free to start.
Non, ils n'ont jamais employé ce terme pour Mario Run. Par contre, ils emploient ce terme pour Fire Emblem et pour Miitomo. Et si tu vas sur les sites de Fire Emblem et de Miitomo, il est indiqué que c'est un free to start.
D'accord. Bon, bah peut-être que je me trompe. Alors, j'étais convaincu, mais j'admets quand je me trompe. Et s'il y a quelqu'un qui pourra bien me le faire admettre, c'est Monsieur le Maire. Donc, je me recroqueville et j'admets mon erreur. Je suis quand même en train de vérifier pour pouvoir ressortir de ma cachette si, mais bon, ok, très bien. Donc free to start, bah écoute, il faut que je revoie complètement ma vision du monde. J'étais convaincu qu'ils appelaient ça free to start, mais je me trompe peut-être. D'accord, très bien. Et du coup, J.K., je t'ai interrompu sur ce sujet. Est-ce que tu
veux aussi décrire? Ouais, en fait, c'était juste pour nuancer par rapport au débat de Super Mario Run. Oscar disait, oui, les gens criaient parce que oui, c'est scandaleux, faut payer. Alors certes, mais surtout, faut payer 10 euros. Moi, je pense, malgré tout, je pense que ils auraient vendu le jeu 5 euros, par exemple. Ça aurait été le discours aurait été différent et le succès aurait été différent, quoi qu'on en dise, parce que les gens sont assez peu habitués à payer pour des jeux mobiles, certes, mais surtout payer 10 euros, je trouve c'est clairement une erreur. Enfin, je pense que c'est une erreur de leur part.
Oui, mais enfin, ça aurait quand même pas rapporté plus que Fire Emblem, toi.
Non, mais évidemment, mais ça, on est d'accord pour là-dessus. Mais moi, ça a été une erreur. Et quoi qu'on en dise, il y a quand même des jeux mobiles qui, certes, sont loin de faire l'argent que font un prix tout play, mais il y a quand même des jeux mobiles qui vont se vendre 2, 3, 4 euros, qui vont très bien se vendre et qui vont permettre à. Enfin, souvent, on est plus du côté de la scène indé, mais qui vont quand même permettre à un développeur de s'enrichir et voilà.
C'est pas pareil quand t'as un développeur indé avec 1, 2, 3 développeurs et puis Nintendo derrière.
Non, mais je suis d'accord, mais je suis persuadé que le Mario Run aurait été vendu à 3, 4 euros.
Ils en auraient vendu plus, différent. Mais est-ce qu'ils auraient vendu, tu vois, ils en auraient vendu peut-être deux fois plus, mais
en 10 euros, c'est vraiment, pour moi, psychologiquement, 10 euros, c'est vraiment un prix très élevé pour un jeu mobile.
Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que ils auraient probablement pu gagner plus d'argent s'ils avaient vendu le jeu au moins deux fois moins cher. Mais disons que d'un autre côté, je dirais pas qu'ils ont forcément eu raison de, enfin, qu'ils ont forcément eu tort de mettre le jeu aussi cher par rapport à la plateforme, dans la mesure où leur intérêt c'est aussi de ne pas dévaluer le jeu vidéo. Et Iwata a toujours dit qu'il trouvait ça très inquiétant la façon dont le jeu vidéo était dévalué sur mobile, et qu'il voulait lutter contre ça, qu'il voulait maintenir l'idée que le jeu vidéo ça a un prix et qu'il faut pas brader trop ces prix-là. Sinon après ça va être difficile de faire accepter au public, et de toute façon on le voit bien, c'est typiquement ce qui est arrivé sur le marché du mobile, c'est-à-dire qu'au début très vite il y a des gens qui ont bradé, qui ont proposé des prix extrêmement bas, et désormais si tu veux vendre un jeu à plus de 5 euros sur mobile, on considère ton jeu comme ultra cher, alors que certaines fois, autant là effectivement on peut considérer que Super Mario Run n'a pas énormément de contenu et qu'il aurait pu être proposé moins cher. Mais il n'en reste pas moins que l'idée générale étant que 10 euros c'est hors de prix sur mobile, alors que parfois t'as des jeux qui sont vraiment davantage que Mario Run, qui proposent vraiment un gros contenu et qui méritent ce prix-là. C'est quelque chose de malheureux, et je pense que voilà, c'était surtout ça que voulait faire Nintendo. C'était aussi dire on participe pas à cette dévaluation du jeu vidéo et on maintient les prix élevés, quoi.
Bon. Écoutez, en tout cas, voilà le résultat de toutes ces élucubrations. On va continuer à avancer rapidement. Mario Kart 8 Deluxe est super, super bien vendu. Moi, je pense que c'est parce que les possesseurs de Switch ont hyper, hyper faim. Donc, voilà. Mais il n'empêche que il était l'un des meilleurs jeux. D'ailleurs, le meilleur jeu sur Amazon aux US en 2017. Bon, 2017 est encore jeune, hein. On sait qu'il y a des choses qui vont arriver. Mais, bon, voilà. Il s'est super bien vendu. D'ailleurs, il est très sympa.
C'est la meilleure version, en tout cas, possible. Et puis, n'oublions pas qu'il y a quand même énormément de gens qui ont acheté une Switch, qui n'ont sans doute pas joué à Mario Kart 8, donc pour eux c'est un vrai nouveau Mario Kart, quoi.
Ouais, je pense que la plupart des gens qui ont acheté la Switch qui l'avaient sur Wii U l'ont racheté de toute façon, parce que c'est comme moi.
Mais c'est ça qui est fort avec eux, c'est qu'ils sont capables de te faire acheter un jeu deux fois, quoi.
C'est ça. Et puis la rumeur qu'on avait eue des lapins crétins avec Mario, le jeu de rôle qui était ressorti un petit peu avant l'annonce de la Switch, l'annonce de janvier, ressort maintenant et ça semblerait se confirmer. Donc voilà, il y a un truc qui sera sans doute annoncé autour de l'E3. Passons maintenant chez Sony, et on va être un petit peu plus rapide pour Sony et Acti. Pour Sony, c'est très simple, hein, ils en sont à 60 millions de PlayStation 4 vendus, et le graphique assez utile de notre ami Daniel Ahmad, c'est un petit peu l'Oscar Lemaire du monde anglophone, en fait. C'est un analyste assez connu du monde du jeu vidéo, qui est d'ailleurs parfois dans mon émission anglophone Pixels, qui parle aussi de jeux vidéo. Et donc, il nous a fait un petit graphique qui nous montre ajuster les ventes de la PlayStation 4 et des autres consoles. Alors, on est clairement sur une tendance hyper, hyper positive. On n'est pas tout à fait aux chiffres de la Wii, mais on est comparable aux chiffres de la PS2 et très au-dessus de tout ce qui vient ensuite. C'est-à-dire, par exemple, la PS3, qui était elle-même mieux vendue au final que la 360. À noter que Microsoft ne donne pas de chiffres pour la Xbox One, donc on a des estimations, mais enfin, on n'a pas des chiffres précis. Bon, succès qui se confirme pour la PS4, je crois qu'on est un petit peu un disque rayé maintenant quand on dit ça, mais il n'empêche, c'est notable parce que le succès ne se dément pas, quoi.
Si je peux juste un peu nuancer la comparaison avec la PS2, qui est toujours un peu délicate, déjà parce qu'il y a un contexte sur cette génération qui fait que la génération a démarré très fort, à mon avis principalement parce que la génération précédente a duré très longtemps, excessivement longtemps.
Oui, mais là on est à quoi, 4-3 ans, tu vois, donc c'est plus.
Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que du coup forcément la PS4 a eu un très fort démarrage par rapport aux anciennes consoles, et du coup ça lui donne une avance. Mais surtout le truc, c'est que la PS2, elle est d'abord sortie au Japon plusieurs mois avant d'arriver en Occident. Et du coup, elle est désavantagée, en fait. C'est-à-dire que là, quand on fait la comparaison, on part du lancement de la PS4 qui est sorti un mois de novembre, le lancement de la PS2 qui est sorti un mois de février au Japon. Et qui est arrivé en Occident seulement en octobre.
Mois après, ouais, quelque chose comme ça.
Voilà. De la même année. Et du coup,
pas tout à fait comparable, je comprends.
Voilà, la comparaison avec la PS2 même... est très difficile. Et au final, il n'y a pas un écart énorme. Donc,
non,
j'ajouterais
même que la taille de l'industrie est plus importante aujourd'hui. Donc, le phénomène PS2 dans le contexte de l'époque était plus important, c'est certain. Mais bon, il n'empêche que, tu vois, la PS4 reste dans cet ordre d'idées et que même la PS3 ou la Xbox 360 sont en dessous, et on le sait, la Xbox One aussi est en dessous. Donc, oui, il y a toutes ces nuances que tu as raison d'apporter, mais bon, au final, ce qui reste, c'est oui, la PS4 est un succès. Ok, merci.
Oui, non, mais ça c'est incontestable, effectivement. Ouais.
C'est pas la nouvelle du siècle, on va dire, depuis quelques
temps. Évidemment, n'oublions pas aussi que la PS2 reste la console la plus vendue de l'histoire. Donc forcément, qu'elle soit à peu près au même niveau que la PS2, que ce soit un peu au-dessus ou un peu en dessous, ça reste une démonstration d'un énorme succès.
La Wii a pas fait mieux, au final ?
Non, non,
que la Wii avait fait mieux que la PS2 ?
Non, parce que la Wii a fait, enfin, c'est la même situation, c'est-à-dire qu'elle a eu un démarrage bien meilleur, mais au final, la Wii a très mal survécu sur la durée. Elle s'est très vite effondrée. La Wii, enfin, très vite à l'échelle d'une génération de consoles.
Oui, t'as raison. Oui. Alors effectivement, j'ai les chiffres. On est à 155 millions sur la PlayStation 2 sur toute sa vie, et la Wii est à seulement 100 millions. Et la PlayStation 1 est à 102 millions et la Nintendo DS est à 154 millions. Donc effectivement la Wii, je sais pas pourquoi j'avais l'impression que la Wii c'était mieux vendu au final.
Parce que elle battait tous les records, donc il aurait été logique qu'au final elle parvienne à exploser la PS2, mais la PS2 a vécu vraiment très longtemps, alors que la Wii s'est effondrée et du coup n'a pas tenu la comparaison. Et à mon avis, elle s'est effondrée tout simplement parce qu'au bout d'un moment, tout le monde était habitué à l'HD et ça devenait vraiment compliqué de jouer sur Wii, quoi.
Reste la cinquième console la plus vendue de l'histoire.
Oui, évidemment.
Oui, dans ce contexte-là.
Peut-être aussi que j'ai l'impression que ça a été ce carton monstrueux, parce qu'il y a eu quand même le Wii Sport, qui est un des jeux les plus vendus de tous les temps. Donc peut-être qu'on fait l'amalgame aussi des fois entre les jeux ce jeu-là notamment qui a été un succès monstrueux, avec peut-être les chiffres de la console, quoi.
Activision Blizzard qui nous a donc dévoilé ses résultats, c'est pour le premier trimestre 2017. Bon, on va pas là non plus partir dans tous les chiffres, mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que Overwatch a généré plus $1 milliard de revenus. Ils sont à 30 millions de joueurs. Alors encore une fois, comme on le précise souvent, ça veut pas dire 30 millions de jeux vendus, puisqu'il y a des gens qui achètent leurs jeux autant dans certains marchés, mais mais il n'empêche 30 millions de joueurs, et Hearthstone a atteint 70 millions de joueurs, là encore on sait pas combien ils jouent encore, mais enfin c'est 70 millions de comptes créés. Et pour la question de combien de gens y jouent encore, on sait quand même, même si on n'a pas le chiffre précis, que ils viennent de battre le record de joueurs actifs quotidiens avec le lancement de la dernière extension de Un'Goro, Journey to Un'Goro. Donc clairement Hearthstone se porte très bien, Overwatch se porte très bien, on sait qu'il y a d'autres jeux chez Blizzard en l'occurrence qui se portent très très bien. Une impression, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur le sujet, Oscar?
Bah,
ou Jika? Non, vas-y.
Non, juste, moi, c'est très rapide. J'ai l'impression qu'on dit la même chose tous les ans, là, depuis quelques années, quoi. Mmh. L'année dernière, c'était quasiment la même chose. Enfin, pas quasiment la même chose, mais c'était plus ou moins la même tendance, quoi. Et on se demande, c'est super, hein, tant mieux pour eux, hein, mais c'est vrai que ça va peut-être, je me demande. Enfin, est-ce qu'un jour ça va s'inverser pour quelle raison, quoi? C'est ça qui serait intéressant de savoir.
C'est sûr.
Voilà. De voir.
Bah, le truc c'est que enfin il y a quand même une grande différence parce que tu vois Hearthstone typiquement il y a énormément de joueurs mais la grande question c'est de savoir combien paye. Ça ils donnent pas les détails donc finalement on sait pas si le jeu rapporte tant d'argent que ça et
enfin,
alors
j'ai pas
côté...
l'impression qu'il soit non plus enfin tu vois Hearthstone clairement quand il y a une extension qui sort il faut quand même sortir un petit peu d'argent si tu veux être t'es pas obligé, c'est sûr, mais
oui, non, mais enfin voilà, je dis juste qu'on manque de détails sur Hearthstone. Je pense que c'est un succès, ça me paraît indéniable, mais je pense pas que ce soit un succès aussi fou. Par contre, Overwatch, clairement, Overwatch est un succès monstrueux, et je pense que c'est malgré tout, c'est ça la différence avec l'année dernière, c'est que Activision est quand même dans une situation où la popularité de Call of Duty s'effondre doucement. Ça continue de rapporter beaucoup d'argent, mais ça s'effondre doucement. Le Skylanders est en train de mourir. Ils ont tenté le retour de Guitar Hero qui a totalement foiré son coup. Alors ils ont toujours Destiny qui malgré ce que beaucoup de gens pensent a été un vrai gros succès et Destiny 2 cette année est un énorme potentiel commercial. Mais globalement il y avait des inquiétudes à avoir sur la santé d'Activision. Puis là il y a Blizzard qui vient un peu sauver la situation avec Overwatch et finalement tout va bien quoi effectivement. Donc mais je pense que c'est vraiment surtout grâce à Overwatch qui est vraiment un énorme phénomène quoi parce que comme tu dis, ils annoncent seulement le nombre de joueurs, donc on sait pas pour les ventes réelles, mais ils avaient communiqué au trimestre précédent que Overwatch a été un plus gros succès que Diablo 3 à l'époque, et Diablo 3 à l'époque c'était, je crois que c'était 12 millions de jeux vendus.
On avait envoyé les communiqués de presse, donc bah, voilà. C'était 12 millions
ce qui était à l'époque, c'était la même année que Assassin's Creed 3, c'était au même niveau qu'Assassin's Creed 3, l'Assassin's Creed le plus vendu de la série, quoi.
Il était sorti que sur PC, Diablo, au lancement.
Alors qu'il est sorti que sur PC.
Ouais. C'est pour ça que c'est un peu plus difficile à comparer aussi, tu vois. C'est alors que Overwatch, il est sorti sur console dès le jour du lancement, donc.
Mais ce que je veux dire, c'est simplement que voilà, Diablo 3 était un succès énorme qui leur a apporté énormément d'argent. Overwatch est au-dessus de ça, quoi. Et en plus, c'est un jeu qui peut leur rapporter, enfin, qui est plus adapté. Enfin, après, je connais pas super bien le jeu en lui-même, mais il me semble qu'il y a des DLC, etc. Enfin, qu'il y a des moyens pour gagner de l'argent derrière, quoi.
Ouais, il y a la possibilité d'acheter des objets cosmétiques, effectivement.
Voilà.
Donc il y a des gens qui dépensent en plus d'argent là-dedans aussi, oui, c'est sûr.
Voilà, donc je pense que c'est une énorme machine à fric pour eux qui va continuer pendant un moment, quoi. Donc effectivement, voilà, Activision toujours sans la moindre inquiétude et qui peut tranquillement continuer à préparer ses projets de demain sereinement.
De domination du monde. Voilà. Mais c'est vrai que du côté d'Activision, moi, c'est plus le truc qui m'intrigue, c'est oui, ils ont Destiny 2 et je pense qu'il y a un potentiel qui est solide, sans être invraisemblable, mais enfin il y a un potentiel solide sur Destiny 2. Moi, simplement parce que moi je vais me jeter dessus, donc c'est sûr. Non, bon, sérieusement, il y a effectivement un potentiel, mais au-delà de ça, bon, il y a le jeu Spider-Man là qui est censé arriver bientôt, qu'on a vu un tout petit peu, mais enfin bon, ça a l'air sympa, mais on sait pas très bien.
C'est Sony, ça, je crois.
Ah oui, t'as peut-être raison. Oui, oui, pardon.
Ouais, c'était
parce que je pensais à.
C'est Insomniac qui développe.
Ouais. C'est Insomniac, quoi, et édité par Sony. Ouais.
Oui, tout à fait. Pardon. Bah donc oui, donc Activision, bon, ils ont Call of Duty. Bah justement, quittons la partie chiffres et bilan, à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter en plus sur d'autres. C'est vrai que tout n'est pas sorti, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez ajouter sur la partie bilan, chiffres, tout ça?
Non, pas spécialement. Non. Pour moi, on est bon.
Ok, et ben donc, on quitte la partie chiffres et bilan pour parler de Call of Duty World War 2, justement, en évoquant Activision. Bah, c'est un petit peu leur gros morceau. Bon, oui, il y a Destiny 2, on va dire qu'ils ont deux gros morceaux. On a vu le trailer de Call of Duty World War 2, et j'avoue que je me suis surpris à avoir des relents de nostalgie pour les jeux de la Deuxième Guerre mondiale que je pensais pas. Alors j'ai bien sûr tout de suite repensé à cette impression incroyable qu'on évoquait il y a deux semaines avec Dany du débarquement dans Medal of Honor et la version qu'on a vue de Call of Duty moderne, je me suis dit ah, peut-être que ça marchera quoi. En tout cas, moi ça m'a fait pas mal d'effet le trailer alors que je pensais pas.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Est-ce que ça vous a fait le même effet ou je suis seul nostalgique de la Deuxième Guerre mondiale?
Fais gaffe, ça peut être mal
ouais,
en fait.
Non, mais tu vois, là, c'était la bonne époque, ouais, quoi. Aujourd'hui, ouais. Tous ces jeunes sur leur téléphone mobile.
Ah là là, ils n'ont pas connu la guerre, tous ces gens. alors, je sais pas, je suis partagé. Moi, pour le coup, le trailer, je l'ai regardé 10 minutes avant parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de le regarder.
Pour te dire à quel point
ça m'intéressait. Non, mais après, non, c'est clairement je pense que c'est bien qu'ils reviennent à la Seconde Guerre mondiale parce que, mine de rien, ça faisait bien longtemps. DICE, l'année dernière, a un petit peu amorcé le truc avec Battlefield 1 qui, certes, se passe pendant la Première Guerre mondiale, mais bon, on se comprend, ça, c'est un contexte à peu près similaire et ils l'ont plutôt bien fait. Battlefield 1, c'est un excellent jeu. Là, franchement, je sais pas. Le trailer m'a pas plus ému que ça. Enfin, voilà, c'est effectivement, tu vas sans doute avoir la scène du débarquement. Tu vas revivre certains gros moments. Il va y avoir un côté, bon, très. J'ai l'impression un peu, enfin, Band of Brothers dans le sens où ça va être beaucoup d'histoires entre les soldats, etc. Mais bon, ça va être fait façon Sledgehammer, voilà. Donc, je pense que ce sera pas d'une grande finesse, mais bon, voilà, peut-être.
Press X to pay your respects.
Ouais, voilà, ouais, ce genre de truc. Bon, on verra. Mais bah, de toute façon, comme tous les ans, Call of Duty, je pense que j'y jetterai un œil curieux plus qu'autre chose. Et puis voilà, peut-être que celui-là. En tout cas, celui-là me donne un peu plus envie, effectivement, que les deux trois derniers qui m'ont très très vite lassé, quoi.
Ouais. Call of Duty Alien Invasion.
Ouais. Tous les trucs dans l'espace. Ring, ouais, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, quoi.
D'accord. Darksiders 3 a été officiellement annoncé. C'est un jeu que beaucoup de gens attendaient. C'est un petit peu un jeu, c'est pas vraiment un jeu niche, pas un jeu, mais c'est un jeu un peu culte, quoi. Et du coup, le troisième, qui a un nouveau protagoniste, comme le deuxième également avait changé de protagoniste. Bon, on en saura plus à l'E3, mais c'est le genre de jeu où c'est à la limite où il y a suffisamment de fans pour qu'on pour qu'il faille en parler quand il y a la quoi.
Ça va rester à mon avis des enfin voilà c'est vrai que Darksiders mine de rien le premier c'est un jeu qui a créé la surprise je me rappelle hein, on était vraiment ultra surpris par ce jeu c'est voilà il y avait des bonnes mécaniques à la Zelda et c'était très cool là je sais pas si tu as regardé là il y a une vidéo de 12 minutes hein, qui a été publiée alors je sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression que c'est quand même extrêmement pompé sur Dark Souls quoi le système de combat le système de boss il y a énormément de choses qui m'ont rappelé un système à la Dark Souls ce qui est évidemment très à la mode en ce moment hein. Après tu sens que je sais pas qui développe hein, mais tu sens que c'est pas non plus un budget énorme parce que bon, techniquement c'est quand même je trouve ça un peu faiblard quoi de ce qu'on en a vu voilà ça sent un peu le retour pas opportuniste mais tu sens qu'ils retentent un truc mais en même temps ils ont pas les moyens non plus ils ont pas l'air de se donner les moyens de faire un truc un vrai gros triple A donc c'est une licence un peu comme ça un peu entre deux eaux bon je suis pas totalement emballé non plus quoi
tu t'en perds l'enthousiasme je
ouais je t'en perds ouais, ouais. T'en alors que le 1 et le 2 m'avaient beaucoup plu à l'époque quoi
je voulais enfin, en fait, il y a effectivement techniquement, c'est pas incroyable, enfin loin de là. Mais je trouve que la direction artistique est pas trop mal trouvée pour. Tu sens que voilà, les mecs ont pas beaucoup de moyens, mais ils ont réussi à trouver un. C'est pas impressionnant non plus, mais il y a des couleurs, ça. Voilà, c'est pas.
Ils ont gardé ce côté un petit peu comics, cel-shading des deux premiers, ce qui fait voilà. que ça te permet d'avoir un moteur graphique un peu faiblard, tout en ayant une patte artistique quand même qui a assez de la gueule. Même si voilà, enfin tu vois l'héroïne rousse qui se bat avec un fouet, enfin on a l'impression qu'on a déjà vu ça 15 fois.
Ouais. Non, mais après je dis ça et en même temps j'ai regardé la vidéo de 12 minutes. Effectivement, j'ai trouvé ça extrêmement chiant et j'ai regardé. Pour pouvoir la voir en entier, j'ai fait en avance rapide vitesse 2, tellement ça m'emmerdait vraiment. Enfin, ça m'a vraiment pas donné envie d'y jouer, quoi. Mais en même temps, je suis pas amateur des deux précédents Darksiders qui m'avaient vite gonflé également. Donc,
c'est, voilà. Mais disons qu'en plus, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est si ils en font une sorte de Dark Souls-like. J'ai l'impression que Dark Souls, c'est un style de jeu tellement radical que oui, il y a les fans de Dark Souls qui apprécient beaucoup, mais je crois que même, je me demande si eux ont besoin ou ont envie d'un Darksiders à la sauce Dark Souls. Et c'est plus le style de jeu qui maintenant doit s'intégrer aux jeux vidéo dans leur ensemble, parce que la révolution s'est faite, enfin la révolution, l'impact a été ressenti, et donc ça s'intègre aux jeux dans leur ensemble, ce type de gameplay, plutôt que de faire encore un Dark Souls-like, quoi. Enfin, citer c'est qui c'est From
From Software
c'est From Software donc citer From Software oui bien sûr t'es légitime et il y en a quelques autres faire d'un autre jeu un nouvel opus en adoptant le style Dark Souls, ça me paraît pas la bonne approche. Maintenant, on verra tout à fait le cas. Hein, mais
oui, peut-être qu'on s'emballe. C'est juste que moi, à un moment donné, vers la fin, t'as un boss, la présentation du boss, c'est exactement comme dans Dark Souls. Après, ça a pas l'air. En fait, quand je parlais de Dark Souls, là, je parlais pas forcément de difficulté parce qu'on n'en sait rien. Je parlais plus le système de combat, tu vois, où tu t'apprends vraiment à te positionner par rapport à l'ennemi, à contrer, etc. Qui m'a fait penser à Dark Souls.
D'accord. Bon.
Mais en fait, ce sujet m'intéresse beaucoup parce que comme je viens de finir un livre sur Zelda, j'ai un peu évoqué ça au sujet de Ocarina of Time, c'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de jeux d'action à la troisième personne qui se sont énormément inspirés du système de combat de Ocarina of Time, notamment du principe de verrouiller les ennemis.
De locker la caméra.
Voilà, de locker la caméra, puisque Zelda a cette spécificité du verrouillage que manuel par le joueur, mais là, il y a beaucoup de jeux qui ont repris ça en l'automatisant pour la caméra. Et du coup, il y a énormément de jeux d'action à la troisième personne qui ont repris le système de combat de Ocarina of Time, qui était un système de combat loin d'être parfait, qui montrait un peu comment faire un système de combat en 3D, ce qui était très nébuleux encore à l'époque. Et je pense que l'évolution des jeux d'action est partie de là. Et d'ailleurs, Miyazaki, je crois que c'est ça le nom du mec qui a créé Dark.
Hidetaka Miyazaki, ouais.
Voilà, Hidetaka Miyazaki, le dit lui-même que Zelda, c'est, il considère que Ocarina of Time, ça a été un peu le mode d'emploi pour faire des jeux d'action en 3D et que évidemment il s'en est inspiré. Mais ce que lui a créé, c'est une sorte d'aboutissement de la formule de Zelda dans une certaine direction, c'est-à-dire que il y a eu différentes directions en partant du point de départ de Ocarina of Time, il y a eu différentes directions pour rendre un système de combat intéressant. Il y a eu notamment l'idée de d'utiliser des combos, des trucs à la Bayonetta par exemple, de complexifier le système de combat en ajoutant plein de combos, et Miyazaki avec les Souls, ce qu'il a fait lui, c'est une approche différente où il a créé un système où, enfin, je vais pas non plus expliquer le système des Souls, mais il a créé un truc un peu différent de Ocarina of Time qui fonctionnait surtout sur le timing où il fallait frapper au bon moment. Et en fait, je pense que le système des Souls ressemble beaucoup au système, alors je rentre un peu dans les détails, mais au système du combat contre le demi-boss dans Ocarina of Time du Temple de l'Esprit, l'espèce d'armure géante. Que tu devais combattre et qui pouvait t'attaquer constamment et que tu pouvais toucher constamment, mais avec la menace de te prendre des coups redoutables. Voilà, et les Souls, c'est un peu capitalisé sur ce système-là. Et finalement, ça a montré à toute l'industrie du jeu vidéo, bah voilà une manière un peu différente de faire un système de combat, et je pense que beaucoup de gens se sont dit bah oui, bah c'est ça la solution. Et du coup s'en inspirent en disant bah ça va nous changer du système de combat classique qu'on utilise depuis des années. Et le problème, c'est que évidemment si tout le monde le reprend, bah ça devient le nouveau système de combat classique, quoi.
Mais moi je dirais que j'ai pas de problème avec l'idée que tout le monde le reprenne ou que plein de gens le reprennent. Mais le truc, c'est que les Souls, c'est tellement radical, c'est que c'est presque de la recherche fondamentale. Presque. Tu vois? Alors que, et du coup, c'est hyper intéressant, ça apporte énormément de choses, mais, je suis pas convaincu de l'intérêt de refaire l'expérience ad vitam. Alors là, on parle sur un truc qui est très flou. Darksiders 2, ça se trouve, il reprend effectivement le système de combat, et il y a plein de choses ensuite à côté qui font que c'est pas juste une ressucée d'un Dark Souls, d'accord.
Oui, mais c'est vrai qu'on sent quand même cette base dans leur système de combat, je l'ai ressenti aussi, et puis, enfin voilà, il y a plein d'autres jeux qui sont comme ça, c'est, comme Nioh par exemple, il y a clairement une inspiration qui est assez flagrante des Souls. Après, ils font des trucs différents à leur manière. Enfin, tout le monde essaye, heureusement, de faire des trucs un peu différents. Mais c'est vrai que les Souls semblent être devenus cette nouvelle base. Et du coup, ça fait que, à force, on va s'en lasser également, quoi.
Ouais. Bon, je pensais pas qu'on ferait tellement sur Darksiders 3, du coup, c'était très intéressant. Marvel versus Capcom Infinite, je suis sûr qu'on va pas faire autant dessus, encore que, hein, sait-on jamais. C'est juste qu'il sort le 19 septembre, donc voilà, il va sortir le 19 septembre, et il y a eu un trailer un petit peu plus long, avec des graphismes qui, moi, je sais pas du tout quoi en penser, en fait, de ces graphismes. C'est comme le Marvel versus Capcom 3, j'étais un petit peu genre, ok, ça fait un peu plastique, et puis en même temps, c'est quand même relativement beau, mais je sais pas. Mais bon, le jeu a l'air fun, et vraiment dans l'esprit, what the fuck, n'importe quoi, de Marvel versus Capcom, quoi.
Toi, c'est un jeu que t'attends, j'imagine, beaucoup, en tant qu'amateur de baston, ou...
Bah, moins que Tekken qui arrive dans un mois, par exemple, tu vois. Tekken 7, bah oui, parce que c'est un jeu très technique. Alors oui, il y a des parties techniques dans Marvel versus Capcom, mais l'intérêt d'un Marvel versus Capcom, c'est plutôt le feu d'artifice et fun entre amis, où c'est genre, waouh, t'as vu ce qu'il a fait, incroyable, machin. Oui, alors on peut y jouer de manière plus compétitive, mais dans l'ensemble, le fun est quand même plus les explosions incroyables et les lasers qui traversent l'univers, tu vois. Ouais. Alors que moi, ce que j'apprécie un peu plus dans les jeux de combat, ou ce que j'appréciais à l'époque, quand j'étais encore un petit peu plus performant, c'était l'aspect technique et l'aspect vraiment minutieux, combo, gameplay, tout ça, quoi. Donc, je l'attends un peu parce que ça va être marrant. Mais et puis surtout, on se retrouve moins. Tu vois, surtout ce genre de jeu comme Marvel versus Capcom, c'était les trucs entre potes. Tu te retrouves tous sur le même canap et tu passes la soirée pizza, coca, tu vois.
Ouais, complètement. Puis c'est le genre de jeu où t'es ton pote qui joue pas au jeu de baston va quand même s'amuser, quoi.
Exactement.
Enfin, j'imagine, en tout cas.
Ouais. Alors que maintenant, bah, ça se fait un petit peu moins, quoi. Donc,
C'est vrai. Tout se perd, ma bonne dame.
bah justement, une question intéressante à propos de Halo 6, qui a été dont on a un petit peu entendu parler pour dire que Halo 6 reviendra vers le personnage principal de Master Chief. On sait que le 5 s'était un petit peu écarté avec d'autres personnages qui prenaient une part intégrale à l'histoire. Et le 6, ils ont annoncé que Master Chief reviendrait en fait et qu'on passerait toute l'aventure de Halo 6 avec Master Chief. Et sans doute qu'on jouerait Master Chief. Et du coup, ça m'a mené à me poser la question de savoir si c'est vraiment la bonne solution pour ce type de franchise. Avec en fait Halo 5 qui a peut-être été un petit peu décevant pour certains, ou c'est un petit peu la même chose que Gears of War 4 et toutes ces franchises hyper populaires qui font encore des nouveaux épisodes. Est-ce qu'il faut refaire la même chose ou est-ce qu'il faut en fait parce que toutes ces séries nous offrent le même gameplay avec des personnages différents et c'est ça la promesse de renouvellement dans ces séries-là. Et je pense qu'on l'a vu avec Halo 5 et Gears of War 4 et d'autres, hein, bien sûr. Je suis pas convaincu que ça soit vraiment la bonne méthode. Surtout depuis que on a vu ce trailer de God of War à l'E3.
Je vais le dire.
Ouais, c'est vraiment le truc qui vient à l'esprit des gens, je pense, où l'impression qu'on a eue, il faudra le confirmer avec plus de gameplay, parce que là encore, c'était très très court. Ça se trouve, ça change. Enfin, on revient vers un truc hyper God of War un peu plus loin dans le jeu. Mais on a l'impression que le choix de God of War est de prendre les mêmes thématiques, mais de faire grandir et de faire évoluer tout ça, et peut-être même d'offrir un type de jeu qui est un petit peu différent, et en gardant le personnage. Donc plutôt que de garder 100% du gameplay ou 90% du gameplay, on va garder une bonne partie du gameplay mais faire évoluer le contexte autour. Donc ça pose la question de est-ce qu'il faut retourner à ses racines ou est-ce qu'on est prisonnier de ses racines. Et j'avoue que j'ai pas vraiment de bonne réponse, mais la déclaration comme quoi Halo 6, bah vous inquiétez pas, Master Chief revient. Je sais pas, moi ça m'inquiète plus.
Après, ils peuvent très bien faire un Halo 6 avec Master Chief et prendre quand même des risques en termes de mécanique. Hein. God of War, t'as Kratos à nouveau, mais le jeu a l'air assez différent. Mais en fait, on est quand même typiquement sur ce genre de licence qui est née sur la génération précédente de consoles et qui a eu du mal. Enfin, Gears of War, c'est l'exemple typique, qui a eu du mal à se renouveler avec l'arrivée des nouvelles consoles et qui se repose vraiment sur ses lauriers. Gears of War 4 n'est pas un mauvais jeu, c'est sûr, mais c'est un jeu auquel t'as joué au moins trois fois sur les générations précédentes de consoles. Donc c'est de là que vient cette lassitude. Et souvent, on s'attend à ce qu'une nouvelle génération de consoles, de machines, je pense, apporte aussi des nouveautés en termes de mise en scène, de gameplay, et c'est ce que essaye en tout cas de faire Sony, enfin, c'est avec God of War. Et puis d'une manière générale, avec pas mal de studios, enfin Naughty Dog, je pense que voilà, on verra ce qu'on va donner The Last of Us 2, mais j'espère qu'il y aura aussi quelques trucs assez différents.
Je pense que sur un 2, ça va encore, les gens redemandent.
C'est pas comparable, oui. Non, mais sur The Last of Us 2,
ça serait plus Uncharted 4.
Mais typiquement, Uncharted 5, même si le 4 est top, hein, j'ai beaucoup aimé le 4, mais c'est vrai qu'on était encore sur la même formule, quoi. Mais voilà.
Je crois que juste pour parler d'Uncharted, je crois que Uncharted 4 repose aussi sur d'autres choses. C'est vraiment l'impression de le film, genre blockbuster avec les explosions, et t'as l'impression d'y être. Donc, même si c'est un petit peu la même formule, le gameplay, je dirais, énormément de place que dans un truc comme Halo ou Gears of War.
L'énorme différence, c'est qu'Uncharted, c'est bien écrit, quoi. Enfin, c'est facile à dire, mais c'est juste hyper, hyper cool à suivre, en fait. Tandis que Gears, enfin, je te me défie de me résumer les scénarios et les histoires de Halo et des Gears, quoi, sans déconner. Enfin, voilà.
Ah, je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent, mais.
Oui,
c'est
non,
pas
mais en plus, je pense que je vais me prendre une tolée de bois, une volée de bois vert de part de fans de ces licences-là que je
Non,
non,
mais je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, c'est pas l'intérêt du jeu. Alors que, effectivement, le fait que Uncharted, ils peuvent te le refaire plusieurs fois, bah, comme l'intérêt, c'est de suivre l'histoire, d'être ému par les personnages, de rire aux blagues, bah, ça passe mieux, quoi.
Oui, à tel point que moi, enfin, on digresse, à tel point que moi, à la fin d'Uncharted, comme j'en avais un peu marre que je voulais finir le jeu, je me suis mis en facile et puis j'ai traversé le jeu à la fin tranquillement parce que j'avais plus envie de, entre guillemets, de m'embêter avec les combats, quoi.
Oscar, une chose à ajouter ?
Ouais, en fait, je trouve qu'il y a un meilleur exemple encore que God of War, puisque bah, c'est vrai que God of War, le nouveau n'est pas sorti encore.
Tu
donc,
vas nous dire Zelda ?
Non, je pense que le meilleur exemple pour ça, c'est Resident Evil. Resident Evil, enfin le 4 a totalement modifié la direction de la série et ça a été un succès incontestable, quoi. C'est-à-dire que le premier Resident Evil a été une petite révolution à l'époque, un jeu qui a vraiment marqué l'industrie, et le 4 a réussi à faire la même chose. Et je pense que parce que le truc, c'est qu'il faut pas croire que aussi que malgré tout, il y a beaucoup d'éditeurs qui font ça aussi qui ont peur de prendre des risques pour pas perdre leur public, mais c'est assez néfaste pour les ventes finalement de faire ça, de continuer à proposer toujours la même chose. Le dernier Gears of War, ça a pas été un gros succès à l'échelle de la série Gears of War. Il a nettement moins bien marché que ses prédécesseurs, et je pense que ça témoigne du fait que au-delà de la question de lassitude, il y a un côté à l'époque des premiers Gears of War, c'était vraiment le jeu dans l'air du temps, quoi. C'était vraiment un jeu majeur de son époque qui a vraiment une grande importance, une grande influence sur le reste de l'industrie, etc. On peut pas dire la même chose du dernier Gears of War, quoi. Enfin, le dernier Gears of War, t'as l'impression qu'il est sorti et oui, bon, bah c'est toujours la même chose. C'est bien foutu, mais enfin voilà, c'est plus un jeu qui marque les esprits, etc. Et typiquement Resident Evil, c'est le fait que Resident Evil, c'était un peu la même chose, quoi. À l'époque de Resident Evil 3, de Code Veronica, c'était toujours des très bons jeux, mais on connaissait la formule plus ou moins. Et quand ils ont fait Resident Evil 4, ils ont réussi à refaire un jeu majeur qui fout une leçon, une claque à tout le monde et qui permet de dire bah voilà, Resident Evil c'est pas has-been, quoi, c'est encore là, etc. Et du coup effectivement ouais, c'est important qu'au bout d'un moment les séries, quand elles commencent à plus être tant influentes, etc., à plus autant marquer les esprits, à plus autant impressionner, à dire bah putain, les mecs nous ont expliqué comment faire tout un tas de choses et que d'autres développeurs s'en inspirent. Je pense que c'est le moment où il est temps d'essayer de trouver une nouvelle formule pour tenter d'apporter une révolution supplémentaire, au moins à l'échelle de sa série, quoi.
Peut-être que c'est ce qui va se passer avec Halo 6. On peut garder cet espoir, c'est sûr. Et c'est ce que tu dis finalement. Enfin, c'est ce que vous dites tous les deux. Et le fait qu'il y ait Master Chief, bah oui, ça veut pas dire qu'ils vont forcément refaire le même truc. C'est juste que moi, ça me paraissait un petit peu bizarre de dire ça. Comme vous inquiétez pas, tout va bien, quoi. Mais parce que ça ramène plus vers le passé que de se dire qu'on va avoir un renouvellement. Mais oui, on peut tout à fait imaginer un jeu qui prenne des risques et qui change un petit peu le statu quo avec un fils, ouais, y compris avec Master Chief.
Non, mais parce que oui, effectivement, je pense que malgré tout, il y a un côté. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'était on a été con de penser qu'on pouvait remplacer Master Chief. C'est un peu comme quand on a joué avec Raiden à la place de Snake dans Metal Gear Solid 2, quoi. Ouais. ça changeait rien au gameplay, etc. Mais on préférait jouer avec Snake, quoi. Et on a été content de le retrouver dans Metal Gear Solid 3. Enfin, tu vois, des trucs comme ça et effectivement, si ça se trouve, ce sera un jeu qui marquera les esprits à son tour.
Ouais, espérons. Bon, parlons un tout petit peu de. Alors, le nom du jeu est spécifique, c'est Player Unknown's Battlegrounds. Alors, qu'est-ce que c'est que Player Unknown's Battlegrounds ? C'est un jeu qui fait pas mal de bruit depuis un mois environ, peut-être même un petit peu plus, qui s'est déjà vendu à 2 millions d'unités sur Steam, et c'est un jeu qui est un petit peu indé slash early access. Et en fait, Player Unknown est un développeur qui faisait beaucoup de mods avant, qui a fait des mods pour, je crois, Arma et ce genre de trucs. Et il a sorti donc Battlegrounds, il a sorti PlayerUnknown's, je le dis en majuscule, hein, PlayerUnknown's parce que c'est écrit en majuscule, Battlegrounds. Et c'est un jeu qui est sa version de mode qu'il avait fait dans le même style, type, alors c'est dans la mouvance H1Z1, enfin tous ces jeux de survie où on doit être hyper méticuleux, chercher des trucs, des provisions, des trucs pour construire notre équipement, etc. En fait, dans ce jeu-là, c'est un petit peu Battle Royale, quoi. On est parachuté sur une île et on essaye de trouver des armes pour survivre, et à la fin, il ne peut en rester qu'un. Et c'est des trucs, c'est des parties qui durent, je sais pas, une demi-heure, une heure, peut-être un petit peu plus à chaque fois. Et on est une centaine de personnes sur cette île, et il faut gagner au final, c'est-à-dire être le dernier survivant. Alors, il y a différentes armes, on a des munitions très limitées, bien sûr, on peut rentrer dans des véhicules, etc., etc., et c'est hyper lent, hyper méticuleux, et ça a un succès assez fou. C'est, j'ai l'impression que toute la population Steam qui est fan de ce genre de jeu et qui aime ce type de mécanique s'est précipitée sur PlayerUnknown's Battleground et apprécie vraiment le jeu. Donc moi, j'en ai entendu parler, enfin j'étais complètement en dehors du truc, j'en ai entendu parler, c'était genre, il y a la rumeur qui gronde autour de moi et du coup je tends l'oreille et il y a plein de gens qui parlent de ce truc, mais moi je j'étais pas du tout au courant. Je suis curieux, JK, toi qui es un petit peu plus focalisé sur le PC, est-ce que c'est enfin quelle est ton analyse sur ce phénomène ?
Bah écoute, je suis désolé de l'apprendre, mais c'est pas du tout mon style de jeu, ce genre de truc. Je t'avoue que j'ai découvert aussi très récemment l'existence de ce truc.
Ouais, c'est marrant parce que mais on a vraiment eu l'impression de voir une sorte de tsunami, alors à l'échelle de Steam machin, mais de tsunami qui est monté en quelques semaines. J'imagine que c'est aussi grâce à des Twitchers ou des trucs comme ça, et on s'est tous retournés et on s'est dit à un moment mais attends, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe?
Ça, ouais.
Et en fait
on est vraiment sur des phénomènes un peu à la Ark aussi, ce genre de truc qui vous ou des aides, hein, enfin c'est surtout
oui,
des
c'est
aides
celui que je pensais, des
voilà
aides,
qui voilà. Mais après moi le souci que j'ai avec ce genre de jeu, c'est que c'est des jeux qui sont perpétuellement en bêta et qui sont jamais vraiment terminés, qui évoluent avec le temps, et que après certains joueurs ils trouvent leur plaisir, tant mieux pour eux, parce qu'ils se créent eux-mêmes leurs histoires et ils jouent pendant des dizaines d'heures avec leurs potes à ça. C'est très cool pour eux, tu vois. Après moi c'est pas ça, c'est plus du tout le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer. Mais bon, un peu comme tous ces titres là, moi aussi c'est des phénomènes qui sont assez courts dans le temps, quoi. Faudra voir. Après je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui jouent à Ark ou à DayZ, mais ce genre de jeu, voilà, à moins d'une véritable évolution, et j'imagine que les devs vont suivre leur bébé forcément, mais tu te rends compte qu'un jeu comme DayZ qui a l'impression que ça existe depuis 15 ans, enfin j'exagère, mais depuis pas mal d'années, le jeu est toujours en bêta, quoi. Le jeu n'est toujours pas officiellement sorti, quoi. C'est quand même assez dingue de se dire ça. Et ça, peut-être que ça va être pareil pour PlayerUnknown Battlegrounds, c'est ça. J'ai du mal avec les titres.
PlayerUnknown's Battlegrounds. Battlegrounds.
Mais bon, voilà, malheureusement, je peux pas t'en dire plus parce que c'est un jeu auquel j'ai pas joué. Peut-être que je regarderai quand même quelques trucs dessus
par
curiosité, quoi. Mais
j'ai regardé un petit peu et c'est vrai que c'est hyper aride, quoi. C'est genre, c'est vraiment, enfin, c'est trucs réalistes entre guillemets, mais qui peuvent plaire énormément aux gens qui apprécient ce genre d'ambiance. Mais oui, c'est réaliste. Genre, t'avances hyper prudemment. Tu te rends compte, s'il y a quelqu'un qui te voit et qui te met une balle, bah ça y est, c'est terminé, ta partie est finie. Donc faut être hyper prudent. Tu essayes de rentrer dans une petite cabane en espérant qu'il y ait une arme pourrie pour que déjà tu puisses te défendre. T'es tout seul avec ton slip. C'est mais focalisé sur cette ambiance Battle Royale, quoi. Bon, donc voilà, je voulais en parler parce que ça me paraît difficile de faire une émission sur le sujet du jeu vidéo sans parler de PlayerUnknown's Battleground, tellement le phénomène est clair, quoi. Bon, ça sera peut-être le phénomène du mois d'avril et que en juillet on n'en parlera plus, peut-être, je sais pas, mais il est prévu sur console, entre parenthèses. Donc,
d'accord.
Voilà, il y a déjà ça. Deux derniers petits sujets. D'abord, Atlus a changé son fusil d'épaule sur la menace aux streamers. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de la menace aux streamers de Persona 5, où il disait qu'ils ne devaient pas spoiler et que donc s'ils streamaient le jeu, ils allaient envoyer des strikes sur YouTube ou sur Twitch, enfin essayer de faire supprimer les vidéos. Et je pense que on a assisté en direct à une confrontation culturelle terrible entre le Japon et les États-Unis, enfin et l'Occident, où finalement l'Occident a réussi à faire admettre à leur maître japonais, que c'est comme ça qu'il l'avait dit dans le texte original de l'annonce il y a quelques semaines, donc leur maître japonais, ils ont réussi à leur faire admettre que c'était pas une bonne idée d'être aussi agressif, que c'était anti-consommateur et donc anti-client de votre produit, et du coup ils ont vachement relâché cette menace. Et en quelque sorte, je pense que on n'aura plus ce genre de problème, en tout cas de la part d'Atlus ou de ce type de développeur, parce que ça va être une, comme on dit en anglais, c'est un teachable moment. C'est genre un moment où tu peux apprendre quelque chose de ton erreur, quoi. Mais c'est bien qu'ils aient appris de leur erreur, je pense.
Après, je sais pas si c'est une culture, enfin, j'ai pas l'impression que la culture du stream et de Twitch au Japon soit hyper développée. Peut-être que vous en saurez plus. Donc peut-être effectivement les développeurs japonais, les éditeurs japonais ont pas du tout l'habitude de ça, donc ils ont beaucoup plus de mal à gérer ces aspects-là, quoi.
J'aurais tendance à les défendre quand même. Je trouve ça légitime de leur part de dire d'après nous vous gâchez le plaisir qu'on peut avoir en jouant à notre jeu en dévoilant tout ce qu'il y a. Je trouve que c'est leur droit de dire on préfère que vous fassiez pas ça, on préfère vous l'interdire, quoi. Alors après, enfin, on peut trouver ça radical,
c'est leur droit,
etc.,
c'est sûr,
mais tu vois, enfin, je suis d'accord que ça peut être radical, etc., mais ça m'embête un peu qu'à chaque fois qu'il y ait, et ça arrive quand même très rarement, à chaque fois qu'il y en ait un qui s'oppose à ça en considérant que c'est néfaste pour son jeu, que tout le monde lui tombe dessus comme ça, alors que l'éditeur est dans son droit, quoi.
Ouais, non, c'est vrai. Il est théoriquement dans son droit du copyright. Effectivement, c'est son jeu. Il a le droit de dire j'ai pas envie que vous présentiez une partie substantielle du plaisir du jeu et que donc ça gâche le. Enfin, pas ça gâche, mais certaines personnes retirent le plaisir qu'ils auraient eu en jouant au jeu juste en le regardant, et donc ça nous coûte des ventes.
Oui, après. Oui, ouais, mais après, rien n'oblige les gens à regarder. Et voilà, c'est comme quand un éditeur, avant la sortie d'un jeu, balance les 15 premières minutes, les machins, les trucs. Si tu veux pas être spoilé, tu regardes pas. Enfin,
Je crois que ce qui a le plus dérangé, c'était un petit peu l'hypocrisie du truc. C'était genre, c'est pour vous protéger. Tu vois, c'est pour vous protéger des spoils. Alors oui, l'histoire est importante dans Persona 5, mais vraiment, si tu veux pas, c'est pas que les gens te sautent dessus sur Twitter en te disant il se passe ça au bout de temps de jeu, tu vois, c'est faut vraiment faire la démarche d'aller regarder le truc. Donc l'idée, ça va vous spoiler, donc on va vous en protéger. C'est un peu hypocrite quand même, tu vois. C'est pas. Ils sont dans leur droit, je suis d'accord. Mais.
Écoute, je trouve pas tant que ça. C'est-à-dire, moi, il y a eu un truc au moment où les tout premiers tests sont sortis. J'ai vu passer un tweet de quelqu'un qui disait.
Ne dis pas.
Oui. Le tweet n'était pas un spoil, mais c'était au contraire, c'était un tweet de quelqu'un qui disait ne regardez pas le test vidéo de je sais plus c'est quel site, mais un site quand même, un site important, un site américain, ne regardez pas leur test vidéo, ils spoilent complètement le jeu. Et tu vois,
c'est pas la même chose. On parle effectivement, enfin, le fait que les gens aient le droit de streamer ou pas ne change rien au fait qu'il y ait un abruti qui spoil le jeu dans son test.
Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux, je pense vraiment que c'est pas de l'hypocrisie et qu'ils sont sincères dans leur, dans le fait que, et c'est un truc très japonais, et dans le fait de vouloir à tout prix protéger des spoils et de faire très attention à ça. Et, enfin, je, je, Enfin, de toute façon, on sait depuis longtemps que le streaming, le plus souvent, c'est quelque chose qui apporte des ventes au jeu. Et je pense que quand quelqu'un s'y oppose, on peut pas trop l'accuser d'opportunisme ou quoi que ce soit. À mon avis, c'est
une démarche sincère. Donc tu penses qu'ils étaient sincères, quoi. Ils voulaient vraiment protéger les gens des spoils.
Je pense vraiment que c'était une démarche sincère. Peut-être que je dis pas qu'ils avaient forcément raison, peut-être qu'ils avaient tort, etc. Mais à mon avis, en tout cas, leur démarche était sincère, quoi.
D'accord. Bon, il y a aussi la question de savoir, une fois que tu as acheté le jeu, est-ce que tu as le droit d'en faire ce que tu veux et de streamer, mais en même temps, tu gagnes de l'argent en streamant avec le jeu que tu as acheté. Donc, oui, ça pose tout un tas d'autres questions.
C'est un long débat qui ouais. pourrait durer des heures, effectivement.
D'accord. Bon, bah, en tout cas, la tyrannie de l'Internet semble avoir été relativement victorieuse puisqu'ils ont un petit peu lâché du lest sur leur menace. Ensuite, on en pense chacun ce qu'on veut. Dernière petite info, si vous avez déjà joué à Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard, ou pas d'ailleurs, sachez qu'il y a en ce moment une offre de ce qui s'appelle les Mega Bundles. Et les Mega Bundles, c'est 20 héros que vous pouvez acheter gratuitement, en fait, acheter gratuitement, puisque vous recevez le nombre de gemmes nécessaires pour acheter le Mega Bundle de votre choix. Quand vous vous loguez, c'est, je crois, jusqu'à fin mai, ou enfin, il y a encore quelques semaines. Et donc, je voulais encourager les gens à le faire, bien sûr, en agent double de Blizzard diabolique, vous vous en doutez. Non, parce que c'est dommage de ne pas en profiter, mais bon, si vous appréciez pas le jeu, c'est une chose, mais c'est surtout, en fait, ce que je voulais dire, c'est les gens qui y jouent, n'oubliez pas d'aller récupérer votre Mega Bundle dans les autres régions aussi, parce qu'on sait que les jeux de Blizzard, à part Overwatch, sont de manière totalement inexplicable encore coincés dans les années 90 avec des régions différentes et donc des collections différentes sur les jeux que vous avez, Hearthstone et Heroes of the Storm notamment. Et du coup, vous pouvez peut-être pas jouer avec des amis américains ou asiatiques ou ce que c'est. Donc là, c'est l'occasion de récupérer un bon nombre de personnages pour pouvoir jouer avec vos potes. Et donc, ne ratez pas le truc, ne l'oubliez pas, je voulais le signaler. Voilà pour tous les sujets que j'avais notés. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez évoquer avant qu'on conclue l'épisode? Des trucs que vous avez remarqués?
Là, comme ça, non, pas spécialement. Tu prêt, prends un peu de cours, mais... Prêt. Bah, prêt, j'en suis à 2 heures de jeu, donc j'ai bien me garder d'avoir un avis précis, mais...
Premières impressions,
mais ouais, non, c'est du très bon. C'est du très bon parce que si vous aimez les jeux... Enfin, pour le coup, c'est vraiment ça. Hein, si vous aimez les ambiances et les jeux à la BioShock, Half-Life, System Shock, tout ça, c'est la même formule, hein. Avec pour le moment, enfin peut-être un côté un peu sage justement à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça, l'impression que j'en ai, mais c'est vraiment bon, ces 2 heures de jeu, c'est que justement ça prend un peu trop, ça colle un peu trop au basque de ces monuments pour faire quelque chose d'extrêmement bien fichu, mais qui manque un peu de folie. Bon, j'espère, j'imagine que ça va évoluer avec le temps, mais d'accord. Mais non, ça reste très sympa, ça reste très très bien.
Alors je veux bien vite faire rebondir sur Prey, pas pour parler du jeu parce que j'y ai pas joué, mais juste pour parler des ventes. Visiblement, enfin en tout cas les premiers échos qui viennent surtout du Royaume-Uni pour l'instant sont vraiment pas encourageants. Et je pense de toute façon, je trouve que le marketing a pas été très bien géré. Je pense que le jeu est un peu mal barré, ouais. et que c'est, enfin ce serait vraiment un mauvais signe. Enfin voilà, j'ai pas d'avis sur la qualité du jeu vu que j'y ai pas joué, mais je vois plein de gens en dire du bien, et surtout faut bien comprendre que on est dans une situation où avec les coûts de développement qui ne font qu'augmenter et les ventes qui ne suivent pas forcément, les jeux solo comme ça sont un peu en danger, j'aurais tendance à vous dire que si Prey vous intéresse, si vous êtes plutôt motivé pour y jouer, n'hésitez pas, parce que enfin surtout n'attendez pas forcément que le prix baisse, parce que après le succès commercial très limité de Dishonored 2, Arkane est déjà un peu en danger, mais au-delà d'Arkane, c'est un peu tout le au bout d'un moment, je pense que Bethesda va se dire... Bethesda va bien parce qu'il y a Elder Scrolls et il y a Fallout, mais au bout d'un moment, ils vont se dire, bon, bah, il n'y a que ça qui marche, on va faire que ça, on va arrêter d'essayer de faire autre chose, quoi.
Donc ce que tu veux dire, c'est acheter prêt tant qu'il est au prix de base pour encourager ce type de jeu, quoi, si c'est ça que vous aimez, parce que il y a un
oui,
un
bah
danger,
c'est ça,
quoi.
Parce que c'est après, enfin bon voilà, chacun est libre, chacun fait comme il veut, mais
non, bien sûr.
Mais faut bien avoir conscience que quand on attend que le prix baisse, enfin quand le prix baisse, c'est souvent que le jeu a déjà eu un succès pas terrible, quoi, et enfin on le voit, regardez GTA V, il est toujours cher et
oui, non mais enfin, GTA V, c'est le on parlait d'anomalie avec Minecraft GTA 5, pareil, c'est un ovni, quoi.
C'est que souvent le fait que les prix baissent rapidement, c'est une démonstration du fait que le jeu est un échec commercial, et c'est vraiment pas encourageant pour la suite, quoi.
Ouais, c'est pas c'est une bonne affaire, voilà, mais
si on veut
une mauvaise
avoir
affaire pour le dev
de ce style là il y a un moment, enfin en tout cas si on a les moyens, si on peut se le permettre, il y a un moment où il faut essayer de soutenir le truc en les achetant à prix fort, quoi.
Moi, ce que je crains, pardon.
Non.
Ce que je crains plutôt, c'est ce phénomène dont on parle depuis des mois et maintenant un an, le phénomène 2016-2017 qui s'amplifie en 2017. Prêt est peut-être bien, mais enfin, il y a tellement de jeux excellents autour dans l'année que un jeu bien, oui.
Enfin, en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens de mon entourage, c'était un des jeux, voire le jeu le plus attendu du premier semestre. Enfin, tu vois, en termes de gros blockbuster hyper immersif et tout, c'est un jeu extrêmement attendu.
Ouais, attends, toi, c'est parce que tu navigues avec les hipsters du PC. Le plus attendu du premier semestre.
Sur ce trimestre-là, qu'est-ce que t'as d'autre à citer?
Non, mais t'as dit semestre. Enfin, je sais pas, il y a Zelda, il y a Horizon, il y a...
Ouais, Horizon, d'accord, mais c'est une exclu PS4, tu vois. Là c'est pas tout à fait pareil. Il y a eu Resident Evil 7, tu vois, dans les gros blockbusters, grosses franchises, etc. Là, depuis le début de l'année, il y a pas des dizaines de gros triple A extrêmement séduisants, sexy qui sont arrivés, tu vois. Et donc prêt pour moi en faisait partie. Mais après le souci, c'est que c'est clairement un nom qui parle à pas grand monde. Personne ne sait, j'exagère, mais le grand public ne sait absolument pas que c'est une licence, c'est un reboot d'un univers, c'est un nom qui a tout à prouver, quoi, après, tu vois.
C'est un peu genre Gravity Rush, pareil, il y avait des gens qui l'attendaient, tu vois, il y en a des jeux comme
je pense qu'on est quand même plus dans un truc en tout cas Bethesda, mais attention, c'est pas pareil, là on parle d'un jeu qui a été vendu par Bethesda pendant des semaines et des semaines à coups de trailers, de machin, de trucs. Ils ont beaucoup touché, je trouve qu'ils ont beaucoup trop communiqué dessus,
je pense que au-delà de d'essayer de trouver le nombre
Mass Effect Andromeda,
il y a Mass Effect, mais
voilà, Nier Automata,
au-delà de ça, il y a le phénomène des jeux en tant que service, il y en a de plus en plus. Enfin, je pense que au-delà du nombre de sorties, il y a un côté, il y a de plus en plus de jeux qui essayent de maintenir, de garder l'attention des joueurs, et ce qui fait que mathématiquement, les joueurs ont de moins en moins de temps pour pouvoir jouer, pour pouvoir essayer des nouveaux titres. Et c'est vrai que le combat des éditeurs, c'est plus tant le combat pour convaincre les joueurs de consacrer de l'argent pour leur jeu, mais de consacrer du temps, simplement. Et c'est vrai que ça devient un peu la situation délicate d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'à force que chaque éditeur essaye de lancer son jeu qui va être orienté sur le multijoueur, qui va essayer de le faire durer sur la longueur avec des DLC, avec de l'e-sport, etc., forcément, au bout d'un moment, il n'y a plus de temps disponible pour le reste, quoi.
Non, t'as complètement raison. Et d'ailleurs, moi, j'en parlais, je crois, à l'épisode précédent. Il y a Blizzard est hyper fort pour ça. Une fois que tu rentres dans l'un de leurs jeux, et en plus, ils en ont plusieurs de ce type-là à t'offrir, ils essayent de te garder jusqu'à la fin des temps, quoi. Tu peux y jouer, effectivement, tout le temps. Et moi, je me suis retrouvé à jouer, bon, des circonstances personnelles particulières, mais à rejouer à Diablo 3, quoi. Enfin, c'est un jeu qui est sorti il y a 5 ans et j'y ai passé 40 heures. J'aurais pu finir Persona, j'aurais pu jouer... après, il n'était pas sorti, mais il n'empêche. Il y a plein de jeux sur ma liste Steam que j'ai pas fait. Et pourtant, oui, donc la remarque que tu fais, Oscar, de les jeux maintenant, et bon, moi je parle de ceux-là parce que c'est ceux auxquels je joue, mais il y en a plein, effectivement, qui sont des jeux captifs. Des jeux où tu commences à jouer et tu y joues régulièrement sur la longueur. Donc, c'est vrai que c'est peut-être ça, plus encore le danger pour les nouveaux jeux single player auxquels tu joues 10 heures et puis c'est terminé. T'as juste pas le temps, alors que tu vas passer de manière complètement paradoxale plus de temps sur d'autres jeux au long cours, quoi. Donc, j'aurais curieux d'ailleurs de savoir si les auditeurs sont dans le même ressentent le même phénomène. Si vous aussi, il y a des jeux auxquels vous aimeriez jouer vraiment, mais honnêtement, et puis vous vous retrouvez tout le temps à lancer, alors que ça soit, je sais pas, Dota ou League of Legends ou CS:GO ou tous ces jeux e-sport, enfin e-sport non, mais ces jeux compétitifs auxquels on joue pendant longtemps. Et si vous avez le même ressenti, je serais vraiment curieux. Donc, n'hésitez pas à venir nous commenter sur le blog de l'émission.
Mais tu sais, pour l'anecdote, moi, en fait, c'est un peu le schéma inverse. C'est-à-dire que j'ai très peu de temps pour jouer de manière générale entre la famille, le boulot, etc. Du coup, je m'interdis ce genre de jeu-là. Je m'interdis ces jeux où il faut vraiment s'investir. Enfin, typiquement, j'ai jamais essayé de jouer à Dota ou à LoL de peur d'aimer ça, quoi. De peur d'aimer ça et de plus avoir le temps de jouer à autre chose, quoi.
Non, mais complètement, je comprends. Mais pareil, enfin, il y a sur Destiny, par exemple, ou il y en a plein, quoi. C'est vraiment, c'est pas juste ces jeux spécifiques, mais même Destiny, c'est un jeu auquel, en fait, c'est des jeux auxquels quand tu joues, tu n'accomplis pas vraiment quelque chose parce que tu sais que de toute façon, il y aura dans 3 mois, 6 mois, un nouveau truc qu'il faudra faire. Et oui, tu prends du plaisir à y jouer, mais quand tu vois le nombre d'heures que tu passes dessus par rapport à tous les autres jeux auxquels t'aurais pu jouer, bon bah, enfin, on n'est pas prisonnier, on fait quand même ce choix chacun à chaque moment, mais il y a cette incohérence intellectuelle un petit peu étrange qui m'intrigue, quoi. C'est sûr. Je sais pas si toi t'es dans ces phénomènes, JK, j'ai l'impression que non.
Mais... par rapport à ce que disait Oscar et toi, oui, bah si. Bah c'est aussi pour ça que je joue pas à des jeux. Bah typiquement, on parlait de PlayerUnknown là, ce genre de truc. Je sais que c'est déjà des jeux qui demandent beaucoup de temps et puis qui demandent de te connecter en ligne, de rester avec des amis de telle heure à telle heure. Aujourd'hui, c'est impossible pour moi. Enfin, moi que je joue le soir, enfin, je peux pas, quoi. Il suffit que mon gosse se met à pleurer et que ma femme n'est pas là, c'est fini. Enfin, tu vois, ce genre de... Enfin, ouais, c'est des détails du quotidien qui font que, de toute façon, tu ne peux plus passer du temps sur des jeux comme ça qui demandent d'être en ligne, de passer du temps, etc. Donc, je suis beaucoup plus, effectivement, intéressé par des expériences solo, même si elles durent 20 ou 30 heures, tu vois, mais au moins, je les fais morceler.
Tu les fais en petits morceaux, ouais.
Voilà, ouais, c'est pour ça que j'adore ma Switch aussi, tu vois, parce que... Ou une console, enfin, des consoles portables, du meilleur général, parce que je sais que je peux y jouer dans le métro, je peux y jouer dans le lit. Donc, c'est vraiment une consommation qui est très différente. Je sais pas si c'est une question d'âge ou de public ou de etc, mais je serais curieux de voir effectivement. On sait très bien que la moyenne d'âge des joueurs de LoL ou de Dota 2 est beaucoup plus jeune, est relativement jeune parce que c'est des gens qui ont peut-être plus de temps pour jouer, tu vois, en dehors des études, etc. Donc
c'est sûr. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, merci infiniment pour ces réflexions nombreuses et profondes qui m'ont absolument illuminé de leur clarté. Je pense que c'est un bon moment pour conclure l'émission. Et bien sûr, avant de conclure l'émission, j'aimerais vous demander à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet si les auditeurs veulent en avoir un petit peu plus. On va commencer par l'inénarrable JK.
Oui, donc moi on peut me retrouver sur Internet.
Surprise, j'ai l'impression.
Ouais, à chaque fois, je sais pas pourquoi, alors que j'ai l'habitude maintenant. On peut me retrouver sur Internet, sur plein de choses. Donc sur lesnumériques.com pour des sujets, beaucoup plus high-tech, informatique, d'une manière générale. Et sur ZQSD, podcast de jeux vidéo qui parle beaucoup de PC. On a enregistré récemment, là, le week-end dernier, le numéro 50 en public. C'était une première pour nous. On avait promis de faire le numéro 50 en public, on a réussi à s'y tenir, sauf qu'on a fait un numéro 49.3 spécial politique juste avant, mais ça, ouais. voilà. Si vous voulez écouter ce numéro, d'ailleurs, il est assez rigolo, parce qu'on fait un stream du jeu vidéo En Marche. C'était largement avant l'élection de Macron, hein, attention. Et on a joué en direct à un jeu smartphone. C'était assez nul d'ailleurs, mais le jeu en lui-même est assez nul. Bref, donc numéro 50 en public, qui a été enregistré le week-end dernier et qui devrait être en ligne, je pense, bientôt. C'était chouette, on a eu plein d'anciens invités qui sont venus parler de ce qu'ils ont fait depuis leur passage en ZQSD, notamment. Et voilà, et puis c'est à peu près tout, je crois. En Twitter, J.K. Loret.
Magnifique. Oscar.
Moi pas grand chose en ce moment puisque ça fait plusieurs mois que je ne bosse plus que sur mon livre, mais qui du coup maintenant va bientôt sortir. Enfin, je j'ai pas de date de sortie précise, donc je pense que ce sera plutôt vers le mois de juin. Sinon, j'ai un gros projet aussi qui devrait également arriver au mois de juin, mais je vais éviter d'en dire plus pour l'instant.
Ouh, des mystères, des teasings.
Voilà, je fais un petit teasing.
D'accord. Bon, vous pouvez aller suivre Oscar sur Twitter si vous voulez avoir les infos dès qu'elles seront disponibles, bien sûr. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous pouvez également retrouver cette émission et d'autres sur frenchspin.fr. Et vous pouvez aller commenter dans les notes de l'émission, enfin dans les commentaires de l'article de l'épisode, si vous voulez nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ce qu'on a, tout ce dont on a discuté pendant cet épisode. Et si vous avez un petit peu de temps à perdre et que vous voulez soutenir l'émission, eh ben ce que vous pouvez faire, il y a deux choses, c'est aller sur iTunes ou les catalogues de podcasts et nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous le savez, ça nous aide beaucoup. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est partager l'émission, encourager vos amis à l'écouter quand vous voulez un petit peu, soigner les divisions politiques qui nous ont déchirés et vous vous dites qu'aujourd'hui, on veut un petit peu de détente, d'amitié et de gentillesse, et ben vous pouvez dire, voilà, écoute le rendez-vous jeu. Au moins, c'est un moment sur des sujets qui pourront nous rassembler. Et les discussions cordiales autour du jeu vidéo resteront forcément amicales, ça on en est convaincu. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, vous pouvez aller partager le rendez-vous jeu à des gens qui aiment bien le jeu vidéo et qui ne sont peut-être pas auditeurs de podcast. Vous pouvez leur dire, voilà, télécharge ça sur ton mobile, tu vas voir, tu vas passer un bon moment. J'espère qu'ils vous seront reconnaissants, et en tout cas, nous, on le sera. On vous fait de grosses bises, et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous!
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.